En moins de 2 mois, c'est le 2e épisode que je consacre à la situation en Haïti. Le dernier remonte au 12 mars 2024. Marie-Andrée Bellange, la correspondante de RFI à Port-au-Prince, me racontait les bandes armées qui terrorisent la population, multiplient les attaques et les enlèvements. Je l'interrogeais aussi sur la situation en dehors de la capitale. Et il était difficile pour elle d'en rendre compte avec exactitude, puisque sortir de Port-au-Prince est toujours extrêmement difficile. Alors qu'en est-il vraiment ? Dans cet épisode, c'est Vincent Souriau, qui est journaliste au service international de notre radio, qui va m'en dire plus, puisqu'il rentre tout juste de Cap-Haïtien, la grande ville du Nord. Un peu plus de 200 km séparent les deux agglomérations. Quelques jours avant cet enregistrement, qui a eu lieu le 22 avril, la mission de l'ONU en Haïti dévoilait de nouveaux chiffres. Cette mission s'appelle BINU. Depuis 2022, elle a mis en place son propre mécanisme de surveillance des droits de la personne. Et selon elle, sur les 3 premiers mois de l'année, au moins 2500 personnes ont été tuées ou blessées à la suite de violences liées aux gangs. Cela représente, dit la mission, une hausse de plus de 50% par rapport au dernier trimestre 2023. À ces violences s'ajoute l'insécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, estime que près de 5 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, se trouvent en situation d'insécurité alimentaire grave. Quant à l'accès aux services essentiels comme la santé ou l'éducation, il est de plus en plus limité. Bonjour Vincent.
Salut Alex.
C'est avec ces chiffres, en tout cas ce tableau relativement sombre, qu'avec Boris Vichit, qui est technicien de reportage, vous arrivez en Haïti à l'aéroport de Cap-Haïtien. C'est le seul aéroport du pays qui fonctionne encore, hein, c'est ça ?
C'est ça, parce que l'aéroport principal qui est à Port-au-Prince est impraticable, en tout cas au moment où on arrive. Apparemment, il pourrait se débloquer bientôt. Mais jusqu'ici, compte tenu de l'insécurité dans la capitale et le fait que les gangs pourraient s'en prendre aux passagers qui sortent, les infrastructures de la capitale sont compliquées, le chemin est difficile d'accès. Bref, tout ça fait que la situation a obligé les autorités à fermer l'aéroport international de Port-au-Prince. Donc la seule voie d'accès, c'est celui de Cap-Haïtien. Ce qui fait que c'est aussi par là qu'énormément de gens cherchent à partir du pays. Et donc quand on arrive, l'aéroport est rempli. Il y a du monde qui cherche à fuir Port-au-Prince par tous les moyens.
Ça, c'est le premier sentiment, un bouillonnement dans cet aéroport ?
Le premier sentiment, déjà, c'est que ça va. C'est qu'en fait, on s'attendait à ce que la situation soit tendue. En réalité, à Cap-Haïtien, ça ne l'est pas. Et à l'aéroport, ce qu'on voit surtout, c'est des familles aisées qui ont les moyens de s'offrir un billet d'avion et qui ont la capacité de s'enfuir vers les États-Unis. Il faut s'arrêter un tout petit peu sur ce qu'on appelle le programme Biden. C'est que les États-Unis, depuis 2023, offrent la possibilité aux Haïtiens qui le peuvent d'aller s'exiler aux États-Unis pendant une durée minimale de 2 ans. Ça implique certaines conditions. Il faut avoir de la famille ou des proches aux États-Unis qui peuvent garantir qu'il y aura un hébergement côté américain. Il y a aussi des vérifications de sécurité pour les gens qui veulent partir. Mais une fois que vous êtes éligible à ce programme Biden, vous pouvez partir. Évidemment, ça concerne un nombre limité d'Haïtiens parce que tout le monde n'a pas les moyens de prendre un billet. Et c'est ces gens-là qu'on a vus, nous, à l'aéroport. Par exemple, on a vu une femme médecin haïtienne qui cherchait absolument un billet pour sa mère. On a vu des gens qui avaient quitté la capitale avec leur famille pour partir.
Qui avaient déjà pris un risque pour arriver jusqu'à Cap-Haïtien.
Le risque est énorme de quitter la capitale parce que c'est, en gros, ce que nous disaient certaines personnes, c'est qu'il y a 50% de chances d'être kidnappé et que, en plus, les gangs fouillent les véhicules qui quittent Port-au-Prince, ouvrent les valises et cherche précisément des documents d'autorisation de voyage. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous cherchez à partir, dans l'esprit des gangs en tout cas, ce qu'on nous a dit, ça signifie dans leur esprit que vous avez de l'argent et que donc on peut vous enlever pour demander une rançon. Mais les routes de sortie et d'entrée vers Port-au-Prince sont hyper dangereuses en ce moment et les gens qui en sortent sont traumatisés.
Ça, c'est la première vision donc à l'aéroport. Tous ces gens qui ont donc les moyens de pouvoir partir. En ville, j'imagine que ça n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui domine quand on a échangé par message quand tu étais sur place? Tu m'as dit C'est calme, et c'est vrai que ce calme, tu vas le raconter dès tes premiers reportages, ça m'a étonné, en tout cas ce que j'ai entendu, avec le maire adjoint de la ville.
En fait, nous, pour préparer notre voyage, on avait évidemment contacté des gens sur place qui nous avaient dit que les conditions de sécurité étaient relativement bonnes. Évidemment, avec tout le climat d'insécurité qui entoure le pays, et il y a toujours cette distorsion entre la situation sur place et l'image qu'on peut en avoir, nous, à l'étranger et en Occident en particulier, aller en Haïti pouvait sembler dangereux où que tu ailles. En réalité, dans tout le département du Nord, donc Cap Haïtien et le chef-lieu, on peut circuler librement et la vie quotidienne se déroule plus ou moins normalement. Effectivement, on s'est rapproché des autorités municipales, on a rencontré le maire adjoint de Cap Haïtien qui, lui, tient un discours peut-être un tout petit peu décalé par rapport à l'actualité, si tu l'écoutes.
Patrick Almonor s'est fixé une mission, faire briller Cap Haïtien. Oui, le pays est en larmes, oui, la capitale est en sang, mais sa ville à lui, c'est la deuxième ville d'Haïti. On y vit bien, et il est temps que ça se sache.
Ce que vous vivez là aujourd'hui, vous pouvez marcher à n'importe quelle heure, il y a des activités nocturnes. Le Cap existe. On ne peut pas résumer pour le moins pour Haïti. Et c'est là, et il y a une confusion au niveau international. Maintenant, c'est à nous, comme Capois, à nous, comme Capoises, pour vendre le Cap comme un espace qui fait partie d'Haïti. Il n'existe pas seulement le Port-au-Prince.
Alors, il dit quelque chose qui est vrai et intéressant, c'est que Haïti n'est pas Port-au-Prince et qu'il faut bien prendre en considération, il ne faut pas en quelque sorte enterrer le pays tout entier. Et que en province, il se passe encore des choses, et Cap Haïtien, c'est vrai, c'est là que les gens viennent pour se réfugier, fuir les violences et trouver une vie quotidienne qui ressemble à celle qu'elle connaissait avant. Maintenant, le discours du maire, c'est qu'il va même beaucoup plus loin, tu vois, en termes de tourisme, il faut attirer des gens, des investisseurs étrangers, Cap Haïtien, c'est l'avenir d'Haïti, etc.
On sent qu'il veut pas être associé, en tout cas, à ce qui se passe à Port-au-Prince.
Voilà, après, faut peut-être pas exagérer, c'est pas non plus la carte postale idéale. Maintenant, je comprends son discours, mais factuellement, c'est vrai que la vie se déroule normalement pour ses administrés dans, à Cap Haïtien et dans la région. Et on peut effectivement prendre la route, se déplacer sans aucun problème. On n'a pas vu un homme en armes, on n'a assisté à aucune violence. On peut se déplacer à pied à Cap Haïtien, y compris pour nous qui sommes blancs, journalistes occidentaux, donc potentiellement les cibles de groupes armés. C'est vrai, mais en réalité, il n'y en a pas là-bas.
Vous avez quand même pris des précautions ou pas?
Au début, on était très précautionneux. On était avec une équipe locale, hein, de journalistes locaux qui nous accompagnaient. On avait balisé des itinéraires, etc., comme on peut le faire dans les zones sensibles. On s'est aperçu assez vite que c'était peut-être pas la peine d'en faire trop. Et on a pu faire des interviews dans la rue sans aucun problème, se balader, parler à n'importe qui. On a essuyé aucun refus, donc on a pu travailler normalement.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, que la situation, elle ne s'embrasse pas à Cap Haïtien?
Je pense qu'il y a un gros travail des autorités locales, à la fois mairie, police et justice, qui veulent à tout prix éviter la contagion. Et ça, c'est un sentiment qu'on a rencontré partout, y compris dans la population civile. C'est que malgré toutes les difficultés que les Capois, donc les habitants du Cap, connaissent, même s'ils sont en colère contre les autorités centrales qui, à leurs yeux, ne font pas leur métier, ne protègent pas la population, ne défendent pas leurs intérêts. Voilà. Il y a ce discours récurrent selon lequel les autorités dirigeantes ne sont pas à la hauteur des enjeux du pays. Mais dans le même temps, il n'est pas question de laisser la situation dégénérer et qu'on en arrive à un chaos tel que Port-au-Prince peut le connaître. Donc, il y a cette volonté manifeste des autorités et de la population réunies de mettre en place un filet de sécurité pour éviter les intrusions de groupes armés. Concrètement, la mairie, par exemple, demande à tous les gens qui viennent de Port-au-Prince de s'enregistrer en arrivant en ville. Donc, je viens de tel endroit, je suis passé par tel endroit pour sortir de la capitale. Telle est mon adresse d'origine, mes coordonnées, mon numéro de téléphone. Et je vais m'installer à tel endroit, à Cap-Haïtien ou ailleurs. L'idée, c'est évidemment pour les autorités de pouvoir répertorier ces gens qui quittent la capitale pour avoir non seulement une idée du flot de population qui a quitté Port-au-Prince, mais aussi pour avoir sur ces registres l'identité des gens au cas où il y a un problème et aussi éventuellement de pouvoir collaborer avec la police pour savoir si les gens qui viennent sont identifiés comme de potentiels fauteurs de troubles. Évidemment, le problème, c'est que ces mesures, elles sont déclaratives, donc c'est sur la base du volontariat. Donc, si vous êtes un gros méchant, vous n'allez pas passer en mairie pour vous enregistrer. Donc, il y a un potentiel de gens mal intentionnés qui peuvent passer en dehors de ce filet de sécurité. C'est là où interviennent le travail de la police et de la justice qui essaye, hein, ce que nous a dit le procureur, enfin qu'on appelle là-bas le commissaire du gouvernement, c'est qu'il essaie de tuer dans l'œuf dès qu'un foyer de micro-banditisme est identifié, pour éviter que ces foyers de micro-banditisme se transforment en des groupements criminels qui pourraient commencer à déborder dans la région. J'insiste sur le côté population, parce que ce que nous a dit le chef de la police, c'est qu'en fait, la collaboration de la population était primordiale et que s'ils avaient pu contrôler une centaine de personnes ces dernières semaines, c'était sur la base de signalements faits par les citoyens de la région. Dès que, en gros, telle ou telle personne inconnue au bataillon se présente dans un village, une ville, un quartier,
elle est signalée.
Elle est signalée. Ce qui est marquant aussi, c'est que malgré tout ce qu'on peut entendre, il y a une collaboration policière entre Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Donc, ce que nous expliquait le chef de la police, c'est que ils avaient des renseignements qui parvenaient de Port-au-Prince sur telle ou telle personnalité impliquée dans tel ou tel trafic ou tel groupe criminel. Et ils savent, en tout cas, lorsqu'on était là-bas, on pouvait pas arriver impunément à Cap-Haïtien tout en ayant un passé criminel parce que il y a de fortes chances que la police de Cap-Haïtien vous identifie, vous arrête et vous interroge.
L'idée, évidemment, de tout ça, c'est d'éviter une contagion de la violence. Alors, il n'y a pas que ça hein, qui participe à la situation en Haïti. En commençant cet épisode, j'évoquais l'insécurité alimentaire avec un niveau, dit le PAM, qui est l'un des plus élevés au monde. Ça, vous l'avez constaté aussi à Cap-Haïtien ou pas?
Oui, parce que tu sais que Port-au-Prince, c'est un peu le poumon économique d'Haïti. Et contrairement à d'autres pays, c'est Port-au-Prince qui alimente tout le reste des provinces haïtiennes. Or, il se trouve qu'en ce moment, l'aéroport est fermé, on en a parlé, le port fonctionne très difficilement, donc le flot de marchandises qui partait vers les provinces précédemment, c'est énormément tari. Et effectivement, ça entraîne des problématiques d'insécurité alimentaire. D'autant plus que là où les agriculteurs haïtiens arrivaient à produire dans le temps, dans les années 90-2000, en grande quantité, voire en quantité telle qu'ils pouvaient exporter leurs produits, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc on a un déficit de moyens qui permettraient aux agriculteurs haïtiens de cultiver leur propre production et de s'autosuffire en quelque sorte. Donc il y a un énorme besoin d'importation de produits alimentaires en Haïti. Et on a aussi un problème avec la République dominicaine, qui est une source traditionnelle.
Collée à Haïti.
Voilà, pays voisin d'Haïti, avec lequel en ce moment il y a une crise diplomatique. Là aussi, ça a posé des problèmes d'alimentation. Donc aujourd'hui, la situation est plus ou moins rétablie à la frontière nord entre Haïti et la République dominicaine. On y est allé avec Boris et on a constaté que, certes, il y avait des problèmes de circulation des personnes, mais qu'en revanche, il y avait toujours une activité économique qui permettait aux petits marchands de la région de Cap-Haïtien d'aller s'approvisionner en produits alimentaires et en marchandises venant de République dominicaine de façon à pouvoir aller vendre ces produits dominicains sur le marché haïtien. Heureusement que cette petite porte est toujours ouverte, sans quoi ce serait vraiment la catastrophe.
Ça fonctionne sur la débrouille. Est-ce que au niveau sanitaire aussi, ça fonctionne de cette manière-là?
Au niveau sanitaire, ce que je peux te dire, c'est qu'on est allé à l'hôpital public de Cap-Haïtien, qui fonctionne donc sur le budget de l'État. Là, on a des problèmes graves d'approvisionnement en médicaments. Le service des urgences est complètement démuni. Il n'y a rien. Il n'y a pas de matériel médical. Il n'y a pas de tensiomètre. Tu vois, ne serait-ce que de machines pour mesurer les rythmes cardiaques, d'équipements, d'oxygène. Il n'y a rien. Donc, ils font avec les moyens du bord. Et à ce problème-là, s'ajoute un problème général de fuite des cerveaux, c'est-à-dire que dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises, les gens les plus qualifiés sont partis. Et c'est vrai aussi à l'hôpital. Donc, il y a beaucoup de médecins qui ont pris la fuite. Et ces gens-là, qui sont des gens qu'on met énormément de temps à former, leur absence se fait sentir puisqu'il y a une fuite des compétences. Et ça ajoute à la crise sanitaire et sécuritaire qui touche le pays.
Non seulement gagner un problème de ressources humaines, mais gagner tout un problème de transmission des savoirs.
Dylan Bernard, cinquième année de médecine, on le repère de loin, à Califourchon sur une moto, avec sa blouse blanche sur le dos, frustré par tous ses profs qui partent à l'étranger.
Ça vient de faire nous-mêmes qui a formé.
On est obligé de se former nous-mêmes et de travailler plus parce que ce qu'un prof aurait fait pour nous avec ses compétences, on ne l'a plus. En fait, on se retrouve en mode autodidacte, on n'a pas le choix, il faut qu'on se forme mieux. Mais c'est hyper dur, on essaie de travailler tous individuellement. Après, les profs qui sont restés pour nous former, on est obligé de faire avec ce qu'ils nous donnent. Mais on ne sait pas si on n'aurait pas eu mieux avec ce que les autres nous auraient donné.
On ne sait pas ce que ces autres-là nous allaient donner.
la population à Cap-Haïtien, les gens que vous avez rencontrés, ils vous ont raconté tout cela facilement, ils ont eu envie de témoigner. Marie-André Bélange à Port-au-Prince, elle me disait « je mets beaucoup de temps à mettre les gens en confiance, ils ont peur de parler ». Est-ce que c'était le cas là aussi ?
Sur l'aspect politique, on n'a pas eu de mal à faire parler les gens. En revanche, le plus sensible, si tu veux, et je comprends que Marie-André ait ses difficultés, c'est justement les gens qui venaient de Port-au-Prince. On a recueilli des témoignages glaçants de déplacés, justement, des gens qui avaient quitté la violence, qui avaient été menacés pour telle et telle raison, et qui étaient arrivés à Cap-Haïtien par leurs propres moyens. Et ces gens-là, effectivement, ont pris un maximum de précautions pour nous parler, parce qu'ils sont inquiets pour leur famille, et le risque est surtout là, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut se passer si on dénonce un peu trop fort les gangs.
Avec Boris, vous avez déjà été sur des terrains difficiles. Je pense à l'Afghanistan, à l'Ukraine, que tu étais venu me raconter dans Témoins d'actu. Et tu m'avais dit, je ne prendrai jamais de risque si éditorialement, ça n'apporte rien. Est-ce qu'en Haïti, la tentation de se rapprocher de Port-au-Prince, elle a été présente ou pas ?
Oui, elle a été présente, mais c'est quasiment impossible d'aller à Port-au-Prince à partir du Cap. Après, je pense qu'il y a un intérêt éditorial à aller à Port-au-Prince en ce moment, parce que, bien sûr, les gangs sévissent là-bas, ils commettent des exactions terribles. Il y a tout un aspect d'oppression de la population qui peut se raconter. Mais surtout, il y a aussi une partie de Port-au-Prince qui fonctionne encore. Il y a des institutions, notamment dans les quartiers préservés comme Pétionville, qui sont encore en activité. Et par exemple, quand on est allé à l'hôpital du Cap, ce que nous a dit le directeur exécutif de l'hôpital, c'est que lui, il était en relation avec l'administration centrale de la santé à Port-au-Prince. Ce que nous ont dit les policiers du Cap, c'est qu'ils étaient en relation avec l'administration centrale de la police à Port-au-Prince, etc. Donc, bien sûr, le paysage sécuritaire à Port-au-Prince est terrible, mais les gangs ne contrôlent pas la totalité des institutions et le noyau politique et administratif fonctionne encore. Et ça, je pense que ça vaut le coup d'aller voir en tant que journaliste comment ça se passe et justement ce qu'on peut encore faire, comment le pays arrive à tenir encore debout malgré ce climat complètement délétère. Maintenant, je voudrais souligner que c'est aussi grâce à la population haïtienne que ça se passe comme ça. Ce qui m'a marqué, c'est que on peut dire d'une certaine manière que c'est le royaume de la débrouille, mais ça tient en réalité sur la bonne volonté des gens qui sont à la base du système. Donc, les infirmiers, les médecins dans les hôpitaux, le policier sur le terrain, les marchands, les agents municipaux, les citoyens. Si tu veux, le pays est sur le point de craquer, mais il ne craque pas parce que les gens font leur travail consciencieusement et ne veulent pas que ça craque. On est sur le point de craquer, mais si on en est là, si ça tient toujours, c'est grâce à la bonne volonté des citoyens. En Afghanistan ou en Ukraine, j'ai pas eu le même sentiment. Mais c'est peut-être aussi parce que en Haïti, nous, en tant que francophones, on a la chance d'aller un peu plus loin dans la conversation, si tu veux.
Il n'y a pas la barrière de la langue.
La France, ok, c'est l'ancienne puissance coloniale, et ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Je dis pas que c'est une bonne chose que les gens parlent français en Haïti, parce que c'est l'histoire qui a fait ça, et je veux pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, en tant que francophone, quand tu peux t'adresser en français à des Haïtiens qui te comprennent et qui peuvent te répondre, que ce soit en créole ou en français, ça crée une connexion. Et de cette connexion, moi, j'ai vraiment senti que il n'était pas question que ça craque parce qu'il ne voulait pas que ça craque. Il y a une volonté collective de mettre fin à la violence et de tenir ce pays à bout de bras parce qu'ils l'aiment ce pays et qu'ils ont envie de le remettre sur pied et que enfin Haïti retrouve sa fierté nationale.
Merci beaucoup Vincent d'être venu me raconter tout ça dans Témoins d'actu.
Merci.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur notre application Pure Radio. À très vite.